France Inter. France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
L'image, c'est une clope au bec, bien sûr, qui résume une époque à elle toute seule. Le son, ce serait peut-être le démarrage de la 504 break de mes parents, ou mieux encore, c'est la voix de Romy Schneider à la fin de César et Rosalie. César sera toujours César et toi, tu seras toujours David. Tu m'emmènes sans m'emporter. Toi qui me tiens sans me prendre et qui m'aime sans me vouloir. On a rarement fait mieux. Les années Pompidou ont leur filmographie, Sauté, Chabrol, Mal et les Bidas en folie. Elles ont leurs chaises, les chaises Paulin, leur logo Renault redessiné par Vasarely, elles ont l'Aventura de Stone et Chardin. Les années Pompidou ont la troisième chaîne, mais l'ORTF est encore là et les petits A2 d'Antenne 2 pendant l'interlude aussi. Elles ont le manifeste des 343 salopes, mais l'avortement est encore interdit, la libération des mœurs est bien timide. Gabriel Russier se suicide dans ces années-là, mais mars 74, un mois avant la mort de Pompidou, c'est la sortie des Valseuses aussi. Les années Pompidou, c'est une croissance à 5%, pas de chômage de masse, le lancement du TGV, de la R5, le premier président dans un Concorde, le lancement d'Airbus, du programme nucléaire, 900 km d'autoroute en plus. Aujourd'hui, on dit volontiers que ces années-là, ce petit 69-74, ce sont les années bonheur, entre la stature trop envahissante peut-être du général de Gaulle et la figure plus moderniste de Giscard. Il y a cette parenthèse-là entre la fin des 30 Glorieuses et le choc pétrolier, entre la fin de Nounours et le début de Casimir. Un peu comme si on avait trouvé là le avant de C'était mieux avant. Une France heureuse, une France sans guerre, confiante dans un autre avenir forcément meilleur, porté par un président qui assumait sa Porsche et citait Paul-Éluard. 50 ans après la disparition de Georges Pompidou, on va se demander ensemble si on les a fantasmés au fond, ces années Pompidou, la parenthèse enchantée. Après tout, 68 était passé, c'est vrai, mais le changement de société pas là encore. La nouvelle société de Chaban a fait long feu. Nous sommes toujours en plein dirigisme d'État. Sommes-nous aussi quelque part entre une vieille France et une nouvelle France? Mais où exactement? Et surtout, qu'est-ce qu'on cherche à retrouver aujourd'hui? C'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Véronique, la première, c'est vous. Soyez la bienvenue. Bonsoir.
Bonsoir Fabienne et bonsoir à tous vos invités et merci infiniment de prendre mon appel. Voilà, moi je voulais juste apporter un témoignage à hauteur d'enfant. Lorsque Georges Pompidou est décédé, j'avais 9 ans, j'étais en cours moyen première année, je venais d'arriver à La Réunion avec mes parents. Et le matin où la maîtresse d'école nous a annoncé que le président de la République était décédé, aussitôt après, elle s'est mise à pleurer. Et pour moi, dans ma tête d'enfant, la maîtresse qui pleure, c'est que quelque chose de grave venait de se passer. Mmh. Et ce souvenir ne m'a jamais quitté. Et plus jamais dans ma scolarité, je n'ai vu ni ma maîtresse, ni un professeur pleurer en classe. Mmh. Voilà, donc j'ai ce souvenir.
Eh ben merci beaucoup pour ce joli souvenir, Véronique, qui nous permet vraiment d'entamer cette émission jusqu'à 20h ensemble. Et pour en discuter, il y a Patrice Duhamel. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous êtes co-auteur du documentaire Georges Pompidou, La cruauté du pouvoir, disponible en replay sur le site de France Télé, qui a été diffusé mercredi. Votre dernier livre s'appelle Le chat et le renard, sur les couples président-premier ministre. Donc, De Gaulle-Pompidou est dedans. Pompidou-Chaban aussi, publié aux éditions de l'Observatoire. Il y a Laurent Delmas qui est là également. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Fabienne.
Vous êtes le critique cinéma dont on aura tout vu sur France Inter et on attend de vous effectivement les années sautées, les années Chabrol, pas seulement les Bidas en folie, mais aussi ça. Et Sabrina Tricot est là également. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, professeure en classe préparatoire au lycée Parc à Lyon, auteur notamment des années Pompidou, publié chez Belin, c'était en 2014. C'est avec vous que je vais commencer, vous, madame l'historienne Sabrina Tricot. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ce que nous raconte Véronique et pourquoi il y a pu y avoir, selon vous, avec ce président-là, ce genre de réaction-là, l'instit qui pleure en face de ses élèves.
Alors d'abord, il y a un premier élément qui était que personne ne s'attendait au décès du président Pompidou, voilà, qui était malade, hein, tout le monde le savait, mais personne s'attendait à un décès prématuré. Donc je pense que ça, c'est ce qui explique aussi la surprise. Et puis le deuxième élément, c'est que Georges Pompidou a voulu être le président des Français. Plus proche des Français que n'était le général de Gaulle qui donnait les grandes orientations et laissait justement son premier ministre Georges Pompidou gérer l'intendance, comme on a coutume de le dire. Mais vraiment, il y avait cette volonté de partager dans ses conférences de presse les problèmes quotidiens, concrets des Français. Et donc, il pouvait apparaître beaucoup plus proche, tout en étant pas un homme comme les autres, bien sûr, puisqu'il était président de la République. Et donc, ça peut expliquer qu'il y ait une certaine forme d'émotion de la part de la population lors de l'annonce de son décès.
Patrice Duhamel, le côté très proche, le côté partagé, le côté concret. Je disais en introduction que c'est aussi peut-être le président débarrassé de la figure tutélaire beaucoup trop encombrante, en fait, du général de Gaulle, qui fait que quand il est président, il peut se lâcher un peu plus Georges Pompidou. C'est pour ça peut-être qu'il avait cette image-là.
Je connais bien le fils de Georges Pompidou, Alain Pompidou, qui m'a dit il y a quelques années, je lui disais c'était quoi vraiment la différence entre De Gaulle et Pompidou, et il m'a dit De Gaulle c'était la France et mon père c'était les Français. Voilà, c'est une belle formule qui résume beaucoup de choses. Et Pompidou a un peu accentué le trait en ouvrant les portes de l'Élysée, de Brégançon, de son appartement de l'île Saint-Louis, de sa propriété de Cajard, de sa maison de campagne des Yvelines. Il ouvrait tout, il y avait des photos de lui partout. On le voyait arriver en Porsche avec François Sagan. Ouais. C'était pas franchement le style du général de Gaulle.
Et les vacances à Cajard.
Et les vacances à Cajard avec les animaux, etc. C'était... Il était à la fois, moi je l'ai assez bien connu, extraordinairement impressionnant, physiquement et intellectuellement, un regard incroyable, des yeux incroyables, ses sourcils broussailleux, une voix très, très marquante, une voix de fumeur, et effectivement une empathie débonnaire. Il en rajoutait pas, mais on sentait qu'il était proche, qu'il s'intéressait aux gens qu'il croisait.
Je suis
juste un petit point par rapport à ce que vient de nous dire notre amie l'historienne. Effectivement, peu de Français s'attendaient à ce décès le 2 avril au soir. Les milieux politiques et les milieux journalistiques savaient qu'il était très gravement malade.
Il y avait
quelques papiers dans les journaux. Moi, j'ai assisté à Reykjavik et ailleurs à des moments de très grande souffrance. Je les ai vus en privé. J'ai attendu des années pour raconter tout ça, mais je l'ai fait dans quelques bouquins. Ce courage devant la souffrance, je pense qu'aussi, ça compte dans la réaction des Français. Parce qu'ils voyaient bien, il suffisait de regarder la télévision pour voir que son visage avait quasiment doublé
de volume.
Et en même
temps, on va faire des allers-retours, mais je voudrais juste finir là-dessus. Patrice Duhamel, vous qui travailliez à l'ORTF à l'époque.
C'était aussi le président de l'ORTF.
Exactement.
Vous avez raison.
Mais ce dont on se souvient, c'est que les images, je me souviens pas, j'étais vraiment très petite, mais historiquement, on sait que les dernières images, notamment, c'est le fameux voyage avec Nixon, qui à la descente d'avion, voilà, c'est pour
et
ça que je vous pose la question.
On m'a fait rentrer à Paris.
Exactement.
D'Islande, c'était 4 heures aller, 4 heures retour. Pour monter le reportage à rue Cognac-Jay à l'ORTF et pour être sûr qu'on m'a demandé si je savais respecter un secret d'État.
Exactement, il fallait pas
montrer.
J'étais
un peu étonné, j'ai dit oui. Et le secret d'État, c'est qu'il ne fallait pas montrer le gros plan du président.
Ouais, voilà.
Il fallait le présenter en pied. Au moment où les télévisions américaines,
le
montraient, Et c'était quand je dis le président de l'ORTF, c'était le président de l'époque encore de l'ORTF qui disait les journalistes de l'ORTF ne sont pas des journalistes comme les autres, c'est la voix de la France.
C'est marrant que vous disiez cette phrase parce que je l'avais sorti la citation d'une énorme somme là que j'ai sous les yeux aux éditions notamment Georges Pompidou et il a vraiment cette phrase typiquement, il dit au sujet de l'ORTF, moi je trouve ça intéressant, ça résonne beaucoup avec notre époque, il dit je considère que l'information sous toutes ses formes à l'ORTF doit être libre et doit être indépendante, mais ce que je vous demande, c'est de vous rappeler que quand vous partez, vous ne parlez pas, quand vous ne parlez pas à votre nom, que vous le vouliez ou non, vous engagez la France. Boum, et fermez les guillemets. Mais effectivement, vous n'aviez pas le droit de montrer les images de Pompidou bouffi, pauvrette, parce que la maladie était en train de gagner du terrain quand on les a vus.
Très impressionnant quand on l'a vu descendre la passerelle de l'avion à Reykjavik, c'était effrayant.
On fera l'aller-retour entre le passé et le présent, et notamment vous parliez du président proche des Français, le président de faut pas emmerder les Français, on verra en quoi peut-être ça résonne aussi avec aujourd'hui. Mais je voudrais quand même, Laurent Delmas, me tourner vers vous, parce que les années Pompidou, pour le cinéphile que vous êtes, j'en ai donné un tout petit bout, un tout petit extrait, mais à la fois c'est au moins 9 films de Chabrol, il n'y a que la bête... 10, vous voyez. Il n'y a que la bête meurt, il y a ces choses qui sont inoubliables, il y a évidemment les films de Sautet, c'est les années de la grande bouffe, les valseuses vont arriver jusque-là, enfin il y a une foison là, et il faut nous raconter ce que ça décrit d'ailleurs. d'ailleurs cette foison-là?
J'ai regardé en préparant l'émission, c'est 980 films en 5 ans. On peut dire que c'est les 5 glorieuses du cinéma français, peut-être parce que c'est impressionnant. Je crois que il n'y aurait pas le temps pendant toute l'émission de dire les titres de films. C'est impressionnant parce qu'il y a tous ceux dont vous avez parlé, mais c'est aussi les débuts de Piala, avec un feuilleton télé qui s'appelle La Maison des Bois, qui est peut-être son plus beau film. Il y a un mélange de cinéma très politique, c'est aussi quand même le Z de Costa Gavras, par exemple, c'est les films de Boissé, et de films sociaux. Il y a les films de Chabrol sur la bourgeoisie, avec les personnages des Noces Rouges, par exemple, les députés de province véreux, enfin ça, ils s'en régalent.
Mais ça, c'est la France Pompidou, c'est une description
de la
France
Pompidou. Oui, c'est la France pompidolienne, c'est comme dans les films de Sauté, il y a des immobiliers véreux, il y a des patrons qui piquent dans la caisse. Sauté, c'est pas du tout ce qu'on en a fait après, c'est pas le peintre gentil de la bourgeoisie pompidolienne. Il y a des ouvriers chez Sauté, il y a peut-être presque plus d'ouvriers, ou en tous les cas de cadres moyens que de cadres sup et que de grands bourgeois. Tout ça donne un portrait de la France, je dirais, pas du tout optimiste, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Moi, j'ai aussi en tête le fait que c'est le premier film de Bertrand Tavernier en 1974, mais qu'il a tourné donc forcément en 1973, et qu'il y a des scènes sur ce qu'est la France à ce moment-là. Il y a notamment l'ami de Philippe Noiret, Jacques Denis, dans L'Horloger de Saint-Paul, et qui dit « On étouffe dans ce pays, on étouffe !» C'est très très symptomatique, je pense, de ce que ressentait une partie des Français, qui voteront d'ailleurs à la fois Mitterrand et Giscard, parce qu'il y a dans les deux votes, les jeunes, par exemple, voteront majoritairement Giscard. Bon, pas encore à gauche, mais on voit bien qu'il y a chez les jeunes de droite aussi une volonté d'émancipation, de libération. Et le cinéma français, sous tous ces aspects, on pourrait parler de Mocky aussi, dit ça de cette France, un sentiment quand même d'étouffement, c'est presque un petit peu de la continuité de La France s'ennuie de Vianson-Ponté en 68.
Et on verra ce que ça donne entre, effectivement, parce qu'on a passé 68, mais la libération des mœurs, c'est pas tout à fait là, mais ça a pas tardé. En effet, on est vraiment dans cet entre-deux-là. J'ai vu que vous vouliez intervenir, Patrice Duhamel, mais Sabrina Tricot également, qui est loin de nous, donc elle ne nous voit pas. Bon, Madame Tricot, allez-y, pardon.
Oui, ce que je voulais dire à propos du cinéma, c'est que justement, Georges Pompidou, donc qui visionnait la nouvelle vague et qui organisait des projections lorsqu'il était Premier ministre à Matignon, avec des membres de son entourage et aussi des amis, avait été très sensible à la manière dont le cinéma de la nouvelle vague traduisait les évolutions de la société des Trente Glorieuses. Et avant mai 68, il avait particulièrement été marqué par La Chinoise de Jean-Luc Godard.
Projection privée de La Chinoise à l'Élysée,
Et qui mettait en scène des jeunes discutant de la Révolution, du Petit Livre Rouge, du maoïsme. Et pour lui, ça a été une sorte de propédeutique à la compréhension de ce qu'a été mai 68.
Merci beaucoup pour cette intervention, Sabrina Tricot. Je voudrais qu'on retourne au standard où Antoine nous attend. Bonsoir, Antoine.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, alors moi, c'est un témoignage parce que j'ai écouté le début de l'émission où une personne parlait de l'émotion de son institutrice lors de la mort de Georges Pompidou. Moi, j'ai pas du tout eu la même réaction. Moi, j'étais lycéen, j'étais en terminale en 74. Et j'ai un souvenir, c'est la couverture de Charlie Hebdo. À la mort de Pompidou, on voyait son visage rayé en rouge avec plus jamais ça. Et pour tout un tas de jeunes de ma génération, c'était le symbole de la droite réactionnaire la plus la plus terrible. Bon, alors on était encore dans la lignée de mai 68. Moi, j'étais lycéen. Mes premières manifs, c'était en 72. On criait 4 ans déjà, coucou, nous revoilà. C'est un de nos slogans. Et pour moi, bon, se souvenir de Pompidou, c'était vraiment l'image de la droite réactionnaire. Bon, alors j'étais militant à la Fédération anarchiste aussi, donc j'avais forcément une autre vision du monde que celle de cet homme politique que l'on glorifie aujourd'hui.
Antoine, merci beaucoup. Alors qu'on glorifie ou pas d'ailleurs, mais dont on essaie de comprendre pourquoi effectivement il redevient presque hype et au bord de la pop culture, Patrice Duhamel. Moi, je me demandais effectivement s'il était coincé entre, on parlait de la figure tutélaire de De Gaulle tout à l'heure, donc c'est cette France qui étouffe toujours en fait à ce moment-là, qui n'a pas encore ce moment où elle peut s'émanciper comme elle le voudrait, et en même temps derrière, il y aura une France giscardienne qui à la fois pas encore probablement celle que souhaitait notre ami auditeur Antoine, mais qui est un peu plus décorsetée, la loi Veil,
le
droit de vote à 18 ans, etc.
Exactement. Tout ça en 100 jours.
Exactement. Donc, j'ai l'impression qu'on est dans cette espèce de milieu-là, en fait, pas tout à fait émancipé, mais un peu plus quand même, et donc dans ce côté un peu étriqué quand même, non ?
Pour deux raisons. D'abord, jusqu'en 70, donc les 18 premiers mois à l'Élysée, Pompidou était encore corseté par la figure de Colombe et les deux églises, d'où lui revenaient des bruits et des informations assez désagréables, parce que De Gaulle recevait peu d'hommes politiques, mais il était extraordinairement critique vis-à-vis de son successeur. Il disait d'ailleurs, je n'ai pas eu de successeur comme je n'avais pas eu de prédécesseur.
Ouais, ouais.
La deuxième raison, c'est la complexité de la personnalité de Georges Pompidou. Parce que, je dirais pas comme l'auditeur réactionnaire, mais je dirais conservateur éclairé. Il y avait un mélange de modernisme dans la stratégie industrielle, vous l'avez évoqué au début, dans le domaine culturel, à la fois ce qu'il a lancé, le Centre Pompidou, etc. On ne peut pas dire que ce soit une initiative réactionnaire.
Non,
le Centre Pompidou,
et
il y a même une polémique sur le thème que c'était beaucoup trop moderne, incompréhensible,
etc. Et très
ami
avec Vazarelli, avec Soulages, voilà, avec tout
exactement.
Ça. Enfin, ouais.
Et en même temps... et dans le cinéma, vous avez totalement raison, moi je me souviens, il aimait à la fois, je parlais de cinéma deux, trois fois avec lui, une de ses premières décisions à l'Élysée, c'est d'avoir fait une salle de cinéma en sous-sol,
et il
faisait des projections quand il était à Paris une fois par semaine, avec des amis, c'était assez mondain, et il y avait à la fois des films de Nouvelle Vague, etc., et très critiques avec la société, et à la fois des films beaucoup plus traditionnels. Mais il y avait ce mélange. Et par exemple, c'est vrai qu'il a fallu attendre après 68 six ans pour avoir la libéralisation de l'IVG, alors que il y avait eu déjà toute une série d'initiatives qu'on connaît, ce que vous évoquiez, l'appel du Nouvel Observateur, etc. Donc c'est ce mélange entre une forme de modernisme et une forme de conservatisme.
Mais du coup, qu'est-ce qu'on regrette à votre avis ?
Enfin, le bonheur.
Il parlait du
bonheur sans arrêt.
Ouais, ouais.
Il disait, moi, je veux rendre les Français heureux. C'est vrai qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui et depuis 20 ou 30 ans, il y a peu de présidents de la République qui disent mon objectif, c'est le bonheur.
On a entendu parler des jours heureux reviendront, mais
oui, voilà. Oui, mais ça, c'était au moment du Covid, donc c'était un peu particulier.
Pardon, excusez-moi. Sabrina Tricot, pourquoi est-ce que c'est les années bonheur, en fait ? Pourquoi on dit les années bonheur ? Moi, y compris avec le regard historienne qui est le vôtre, je me demande jusqu'à quel point on a fantasmé, en fait, ce bonheur-là, à ce moment-là.
Oui, c'est exactement ce que vous dites. C'est ce que montre l'historien, la différence entre la mémoire et l'histoire. C'est-à-dire que le décès de Georges Pompidou a correspondu à un moment où on est passé des 30 glorieuses à ce que Nicolas Bavarez appelle les 30 piteuses, en tout cas de la croissance à la crise. Mais j'ai envie de dire, c'est un concours de circonstances. Ainsi donc, lorsqu'il est décédé, eh bien, les chocs pétroliers ont commencé, le chômage a augmenté. On pensait au départ qu'il était conjoncturel, mais il est devenu structurel. Et donc, par un prisme déformant, on pense toujours au temps d'avance, disant c'était mieux. Donc ça, je pense que c'est un élément essentiel. Par ailleurs, durant les années Pompidou, en gros les années 60-70, il y a un certain nombre d'indicateurs qui montrent que le bonheur, disons, au moins matériel, est réel chez les Français. C'est-à-dire, vous avez plus de 5% de croissance par an, il y a du plein emploi et il y a l'acquisition de biens de consommation de manière quasi continue. Une société de loisirs qui se développe, c'est vraiment les grandes vacances à la mer ou à la montagne. Et tous ces éléments ont fait qu'on a associé les années Pompidou à des années bonheur. Mais ça ne signifie nullement que tous les Français étaient heureux. D'ailleurs, Pompidou le disait lui-même. En fait, il voulait que les Français soient heureux, mais le bonheur a des ressorts qui sont absolument pas matériels. Il l'avait très bien expliqué dans un ouvrage qui s'appelle « Le nœud gordien ». Où il explique que ce n'est pas parce qu'il y aura une machine à laver et une voiture par foyer que le foyer se dira heureux. Parce qu'aussi, la société de consommation crée des frustrations. Ainsi donc, plus on consomme, plus on constate que d'autres consomment plus que nous. Et ainsi, c'est un des aspects de la révolution de mai 68 aussi, tous les oubliés, tous les exclus de la croissance ont manifesté pour y participer. Oui, allez-y.
Pardon, je vous en prie, j'allais appeler le prochain auditeur. J'ai vu que Laurent Delmas levait la main, mais ne vous inquiétez pas, Laurent, vous allez venir. Jean-François, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, Bah écoutez, je vous écoute depuis le début là. Il y a effectivement, moi j'avais 20 ans en 68, donc 4 ans, 5 ans plus tard, vous voyez. Moi j'ai que des souvenirs une espèce de légèreté. C'est vrai qu'on sortait de 68, on sortait d'une espèce de révolution des mœurs. On avait envie de se libérer de la paternité. On avait envie de se libérer de tout le carcan qu'on nous avait inculqué. Et il y avait, à ce moment-là, il y avait une espèce d'élan où on avait envie de vivre notre vie, vivre autre chose. Et c'était du soleil, c'était du bonheur. Et je me souviens aussi du cinéma. C'était 2001, Odyssée de l'espace, c'était West Side Story, c'était Pierrot le fou, c'était toutes ces choses-là. Et puis après, bah, il y a eu toutes les années Flower Power. Et il y avait, je sais pas, par rapport à aujourd'hui, quand je vois le cheminement de ma vie, je m'aperçois qu'aujourd'hui, les gens, ils sont tristes. Les jeunes, ils sont tristes, ils sont derrière leurs écrans, et on dirait qu'il n'y a plus que ça qui existe dans la vie.
Jean-François, merci beaucoup pour votre témoignage. Moi, ce que je vois surtout, Laurent Delmas, vous m'arrêterez si je me trompe, c'est qu'il avait 20 ans, Jean-François. Oui, et c'est ça aussi qui fait toute la différence, et on a tous la nostalgie de quand on a 20 ans, et c'est tellement normal. Vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, je disais qu'il y a des choses qui pointent dans le cinéma, et qui sont issues de 68 comme un féminisme naissant. Alors, on ne parle quasiment que d'un cinéma masculin, c'est vrai, mais pas d'anachronisme. Mais en même temps, il y a des choses qui portent. Par exemple, La Maman et la Putain, c'est un grand film féministe et qu'il faut revoir maintenant.
Ressorti là, d'ailleurs.
À cette aune-là. Ouais. Et je voudrais, par gourmandise, vous dire une réplique.
Allez-y.
De Ma Nuit chez Maud, d'Éric Rohmer, cinéaste catholique, plutôt réac, etc. Et Françoise Fabian, couchée dans un lit avec Jean-Louis Trintignant, lui dit ceci. Écoutez bien, nous sommes en 68, quand c'est oui, c'est oui, quand c'est non, c'est non. Mmh. Je pense que cette phrase pourrait être méditée toujours, maintenant, encore et encore. Et bien c'est en 68 que c'est prononcé dans cette France-là, 68-69.
Mais même Rosalie Robichteder dans César et Rosalie,
c'est une femme absolument indépendante.
C'est elle qui décide de sa vie.
Absolument.
Ah oui,
elle dame le pion au macho César.
Je voulais juste ajouter, par rapport à ce que disait Sabrina Tricot, et je suis totalement d'accord avec elle là sur le coup, c'est, moi je me souviens... personne ou très peu de gens se posaient le problème. Il y avait des gens malheureux, il y avait des gens modestes, on est d'accord. Il y avait des gens qui souffraient, etc. Mais le problème du chômage n'existait pas. Mmh. C'était saisissant par rapport à la situation à partir des années fin 70, 80, etc. Ça n'existait pas. Et Pompidou a dit un jour, si on a 500 000 chômeurs, c'est la révolution dans la rue, ça sera 10 fois mai 68. Pour 500 000 chômeurs. Et on est aujourd'hui assez contents. Pas on, nous, l'exécutif est assez content parce qu'il y en a 3 millions.
On a reçu ce message de Thomas par mail qui dit ceci. Georges Pompidou avait une pratique présidentielle encore plus verticale que celle du général de Gaulle, notamment quand il a fait partir Chaban Delmas malgré un vote de confiance largement acquis. Il avait notamment dit « Le Premier ministre, comme son nom l'indique, n'est que le premier des ministres ». Bref, lui c'est lui, moi c'est moi, Patrice Duhamel, il y avait ce côté très jupitérien au fond, pardon de le dire comme ça, mais très jupitérien de la part de Pompidou, très dirigiste en tout cas.
Oui. Avec Chaban, le problème, c'est qu'ils s'entendaient très mal. Ils avaient des caractères tout à fait antagonistes, et même très antagonistes. Ouais. Et il y avait un côté un peu tragique chez Georges Pompidou, et notamment avec l'affaire Markovitch.
Ouais.
Je sais pas si on aura le temps d'en parler, parce que c'était une rupture dans sa personnalité. Et il est président après l'affaire Markovitch. Et il avait gardé le souvenir de 6 ans à Matignon où il fait quasiment ce qu'il veut sur le plan de la politique intérieure. Il s'occupe très peu de la politique extérieure, mais c'est vrai que De Gaulle lui donnait une énorme marge de manœuvre. Et effectivement, il est resté dans cette ligne-là après comme président. Il voulait à la fois s'occuper du domaine réservé et de ce dont il s'occupait comme premier ministre.
Il n'avait pas lu le discours sur la nouvelle société notamment et que ça l'a super agacé.
Alors, ça l'a agacé d'abord parce que sur le fond, il n'était pas vraiment d'accord, parce que le discours de Chaban était assez critique sur l'état de la société, parlait des blocages de la société, et deuxièmement, parce qu'il trouvait que c'était plus un discours de président qu'un discours de premier ministre.
Pour aller vite, Patrice Duhamel, et pour ceux qui nous écoutent, et très rapidement, l'affaire Markovitch, on est en 1968, c'est un ancien garde du corps de
Alain Delon, qui est assassiné. Voilà. À partir de là, je ne rentre pas dans les détails, il y a une campagne absolument ignoblissime contre Claude Pompidou, avec des photos truquées, laissant entendre qu'elle participait à des parties
festival de fake news.
Qu'il y avait eu des photos, et donc il y avait du chantage, etc. Ça a été ignoble, c'était fait pour tuer Pompidou.
Et il a considéré que de Gaulle n'avait pas beaucoup aidé là-dessus, notamment.
Oui, parce que c'est vrai, et que de Gaulle, lui, considérait que l'homme du 18 juin, le fondateur de la Ve République, Charles de Gaulle, ne devait pas s'abaisser à parler, à démentir ce qu'aurait fait dans les parties fines la femme de l'ancien Premier ministre.
Laurent Delmas, très vite,
jusqu'à
parce que
la fin de sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, il a gardé un petit Bristol sur son bureau où il y avait une série de noms dont il pensait que c'était les noms des responsables de l'affaire Markovitch.
Sabrina Tricot, vous vouliez intervenir.
Oui, je voulais juste rajouter qu'à propos de la société jeune, il ne faut pas oublier qu'en mai 68, il y a un tiers de la population qui a moins de 20 ans. Donc il faut bien avoir ça aussi en tête dans l'aspect bonheur. Et puis je voulais rappeler, et ça serait un écho par rapport à la question de l'auditeur qui disait que Pompidou était réac. En fait, Pompidou, quand il a été Premier ministre, il a accepté la prééminence présidentielle. Et ensuite, il l'a imposé à ses premiers ministres lui-même. Donc Chaban en a fait les frais et Mesmer partageait cette même idée. Mais justement, le renversement, et plutôt la démission de Jacques Chaban-Delmas et son remplacement par Pierre Mesmer, ça a contribué à droitiser la politique conduite par Georges Pompidou. Et pour terminer sur la nouvelle société, en fait, il y avait une vraie différence d'appréciation entre Chaban et Pompidou sur le concept même. Pour Georges Pompidou, on ne pouvait pas créer une nouvelle société. Il fallait prendre la société telle qu'elle l'était, fruit du passé, et la réformer. Mais en créer une nouvelle lui semblait totalement inepte, parce que la société était telle qu'elle était. Et on devait faire avec. Mieux, mais avec.
J'ai entendu Georges Pompidou à l'Élysée avec quelques journalistes. On l'interrogeait sur la nouvelle société, le discours Chaban. Il a répondu « Oh, la nouvelle société, j'ai déjà assez de mal avec l'ancienne.
» On parle des années Pompidou avec Patrice Duhamel ce soir, avec Sabrina Tricot qui est historienne, avec Laurent Delmas également, et avec Marc qui est dans le Val-de-Marne. Bonsoir Marc.
Bonsoir à toute l'équipe du Téléphone Sonne et à vos invités. Oui, alors donc j'étais tout gosse du temps de Georges Pompidou. Alors il est connu comme on le brosse un portrait de président réformateur, celui qui a fait des autoroutes, mais il a failli en faire davantage. Bon, heureusement ça s'est arrêté là. Et aussi comme bon son nom, l'emblème, c'est le musée Georges Pompidou, le grand musée Bariolé, là, qui va bientôt être rénové à nouveau, mais c'est vraiment le symbole de la modernité. Et moi, j'ai été surpris en découvrant un peu par hasard un livre qui était de lui. Au début, je me disais, c'est son nom, vraiment. Et c'est l'anthologie de la poésie française. Ça m'a captivé. Et j'étais vraiment séduit. Je soupçonnais pas ses goûts littéraires, bien que depuis, là, vos invités ont dit qu'il y avait une très grande culture livresque. Et je sais aussi que par la suite que sa femme, Claude Pompidou, était aussi férue d'art moderne, et que même qu'ils avaient décoré l'Élysée, enfin qu'ils avaient meublé l'Élysée en tant que tel de meubles contemporains. Et je me demandais si par ailleurs il y avait aussi de l'éclectisme également dans l'art. Est-ce que c'était uniquement moderne, ou est-ce qu'il y avait quand même, comme pour la littérature, une étendue de goût voilà, c'est ce que je voulais savoir.
Eh ben, écoutez, peut-être qu'on va pouvoir vous répondre. Peut-être que c'est vous, Sabrina Tricot, qui allez pouvoir répondre à notre ami auditeur sur les goûts au-delà du côté très art moderne de Georges Pompidou, qui a bien secoué. Il n'est pas le seul des présidents à avoir secoué les Français là-dessus, mais qui a bien secoué avec son goût de l'art moderne.
Oui, alors c'est une excellente question, parce que je pense que c'est vraiment une des clés de compréhension du personnage. Georges Pompidou, c'est un lettré, c'est un normalien, c'est un homme pétri de lettres et d'humanité classique, et c'est fondamental dans son identité. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est autant féru de poésie et d'art classique qu'il est d'art moderne. En fait, il regardait l'art moderne, l'art contemporain, en se disant en quoi la sculpture ou le tableau que je vois, ou les chaises, le salon Pola, le salon à gamme, traduisent la modernité dans laquelle je vis, de même que, par exemple, un tableau du Moyen-Âge ou une œuvre de l'époque moderne pouvait traduire la réalité du passé. Et donc, on a tendance souvent à opposer les deux éléments, mais en fait, c'est un tout, et c'est un tout qui permet de comprendre aussi pourquoi, en conférence de presse, il cite très souvent des poésies, des passages d'œuvres qu'il connaît. Et pour lui, il l'a écrit et il l'a dit, la poésie et la littérature sont un des éléments fondamentaux pour comprendre la politique. Et pour lui, ce que les poètes nous disent de l'homme permet à l'homme politique de gouverner en connaissant l'homme. Il l'a dit vraiment à plusieurs reprises, dans plusieurs interviews et conférences de presse. C'est vraiment pour lui une clé de compréhension de sa politique aussi, de la société dans laquelle il est.
Est-ce que vous diriez, Patrice Duhamel, que c'est l'un des seuls présidents, en tout cas dans l'époque moderne, à avoir cette appétence-là pour l'art, pour la littérature, enfin, j'allais dire à part Mitterrand, peut-être, qui était un peu de cette
de
ce chef-là. Oui, alors De Gaulle,
ensuite,
d'accord, avant, mais après.
Il y a eu Giscard, mais plutôt sur le 19e, sur Maupassant. Il y a eu Mitterrand quand même.
Alors voilà, à part Mitterrand.
Oui, après, oui, c'est on n'est plus au même niveau. Même si, par exemple, le président actuel récite souvent des poèmes, etc. Mais il n'y a pas le même fond de culture que ce qu'on appelait les humanités de Georges Pompidou.
C'est intellectuel, Pompidou, on peut dire, de ce point de vue-là. C'est un agrégé de lettres, on l'a pas dit, je crois.
Oui, normalien.
Normalien, agrégé de lettres et professeur à Henri IV.
Oui, ce qui est pas si mal. Géry est avec nous. Bonsoir, Géry.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
J'ai découvert avec bonheur votre sujet. Oui, en fait, le président Pompidou, c'était vraiment le président de la bienveillance et aussi le président de la chance. La bienveillance, ça se voit dans ses écrits avec ses amis d'enfance. Il souhaitait le bonheur des Français. Et la chance, bien, il a eu les comptes de la France équilibrés, le dernier président comme ça, parce que malheureusement, le choc pétrolier, il est arrivé. Et justement, les Français, ils se percevaient pas seulement heureux, mais plus heureux que le pays qui a organisé le premier choc pétrolier, c'est-à-dire les États-Unis. Et donc, avec un président Nixon qui était embourbé dans ses mensonges et dans une guerre du Vietnam qui n'en finissait pas, c'est sûr que le modèle français, il était nettement plus désirable à l'époque. Et la perception du bonheur, elle est plus importante que le bonheur qu'on ne sait toujours pas chiffrer ou quantifier.
Diri, pardon, je ne vais pas vous interrompre, allez-y. Je pensais que vous aviez fini.
Et d'ailleurs, les gens qui ont savonné la planche à plein de gens, dont la France, avec le premier choc pétrolier, concrètement, du jour au lendemain, le pétrole coûte 4 fois plus cher. C'est la matière première pour fabriquer et aussi transporter. Et oui, c'est vraiment... vous avez un document magnifique de France Inter, de Rendez-vous avec X, des podcasts qui parlent du premier choc pétrolier, comment il a été organisé sur 2 ans.
Eh ben écoutez, elles existent, les podcasts de Rendez-vous avec X, avec le fameux Monsieur X. Géry, merci beaucoup. Patrice Duhamel, il parle de chance, notre auditeur, comme si effectivement, après ça bascule, parce qu'il y a le choc pétrolier. Après, il y a de la chance ou il y a une vision, à votre avis ?
Il y a une vision, il a eu de la chance à la fin de la guerre, à la libération, parce qu'il ne faisait pas partie des gaullistes historiques, c'est le moins qu'on puisse dire.
Il n'était pas résistant.
Il n'était pas résistant. Ou résistance, petite résistance passive, pas plus que ça.
Il s'en est jamais...
En revanche, c'est pour ça que le documentaire de mercredi dernier, on l'a appelé « La cruauté du pouvoir ». En revanche, on ne peut pas dire qu'il a eu de la chance après, le malheureux, parce que entre l'affaire Markovitch et son calvaire que j'ai connu presque au jour le jour des 2 dernières années, et qui a vraiment pesé, parce que la réalité, c'est qu'à partir de 72, je dis pas qu'il ne peut pas exercer ses fonctions normalement, il fait tout pour les exercer, mais il souffre de manière absolument abominable, et l'une des raisons pour lesquelles, votre auditeur l'évoquait tout à l'heure, on a pu parler de président réactionnaire, c'est qu'il ne l'était pas, mais il avait autour de lui 2 conseillers, Pierre Juillet et Marie-France Garraud, qui étaient de fiefés réactionnaires. Alors là, franchement, ça correspondait à la définition à 100%.
Vous parliez des
et,
deux
et
derniers.
Et qui avaient énormément de pouvoir à ce moment-là.
Sabrina Tricot.
Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord.
De loin.
Je disais que je suis tout à fait d'accord avec l'idée de visionnaire, parce que Georges Pompidou, en fait, c'est une sorte de précurseur du concept de développement durable qui, bien sûr, n'existait pas, mais qui est un des premiers hommes politiques à avoir évoqué les dangers, notamment environnementaux, sanitaires.
Il avait un ministre de l'environnement.
Voilà, c'est lui qui a créé le premier ministère de l'environnement. Il a nommé à l'Élysée donc un conseiller spécifiquement chargé des questions de ce que. Alors ça s'appelait pas l'environnement, c'était des questions de la qualité de la vie, donc vous voyez, c'est bien plus vaste. Et vraiment, plusieurs de ses discours montrent qu'il avait vraiment l'objectif de développer économiquement la France, d'accompagner cela par des mesures sociales de redistribution, tout en préservant l'environnement pour les générations futures. Et ça, c'est proprement visionnaire. Et à partir de 72, hein, notamment, il a fait un discours à Chicago qui est vraiment, mais on a l'impression qu'il théorise le développement durable avant l'heure. Donc, je le trouve vraiment visionnaire, en effet.
Alors, il n'en est peut-être pas resté grand-chose à ce moment-là, mais effectivement, l'intention y était. En tout cas, le ministre était là. Vous faites bien de le rappeler, Sabrina Tricot. Bonsoir, Raymond.
Bonsoir.
Il nous reste peu de temps, mais on a du temps pour vous, Raymond. Allez-y.
C'est gentil. Écoutez, je vais être bref. Je suis pas d'accord avec l'essentiel de ce qui a été dit. J'ai connu l'époque de monsieur Pompidou, président de la République. J'ai maintenant 87 ans. Vous faites la soustraction, j'en avais 30-35 à l'époque. Et quand nous manifestions dans les rues, c'était au cri de Pompidou dessous. Ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Le choc pétrolier de 72-73, il a rendu les choses encore plus compliquées, bien entendu. Mais c'était pas le paradis. C'était juste une différence avec l'époque du général de Gaulle, bien entendu. Mm. Parce que chaque président, après le général, chaque président a apporté une nouvelle pierre à l'édifice. Et la France a évolué. Après Pompidou, il y a eu Giscard, qui a fait aussi évoluer les choses. Après Giscard, même Mitterrand a fait lui aussi évoluer le pays. Et en bien, mais pas que ça. Et durant tous ces présidents, y compris Pompidou, quand on manifestait, on criait Pompidou dessous, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire.
Raymond, merci beaucoup, pardon de vous presser, mais il nous reste un peu moins d'une minute. C'est un peu ce qu'on disait, Patrice Duhamel, au fond, au début de cette émission. Il n'y a pas de période à fantasmer non plus. Il y avait aussi, évidemment, des gens qui réclamaient meilleure vie, meilleur salaire, meilleures conditions, etc. Pompidou dessous.
Et ce n'est pas en matière sociale qu'il a fait le plus de choses, mais il a fait quand même un certain nombre de choses. Création du SMIC, la mensualisation des salaires. Il avait fait, à la fin de 68, ça a contribuer à régler la crise, même si ça avait été rejeté par la CGT, les accords de Grenelle, avec des avancées sociales, alors pour le coup, absolument considérables. Mais voilà, il a bénéficié, c'est vrai, monsieur a raison, d'une conjoncture économique internationale favorable. Mais je terminerai en disant que non seulement la France se portait très bien à cette époque-là, mais dans l'Europe des six, puisque c'était six au moment où il a pris ses fonctions, la France, c'était le pays qui se portait le mieux, et notamment par rapport à son concurrent allemand.
Sabrina Tricot, juste en guise de conclusion, l'historienne que vous êtes, est-ce que vous comprenez-vous, est-ce que ça vous amuse cette idée qu'on y revienne à ces années-là aujourd'hui et même qu'on s'en réfère désormais?
Ah oui, je crois que c'est vraiment une figure qui gagne au fur et à mesure des années vers lesquelles on se tourne. Et je terminerai juste en disant que le premier à forger l'expression de président normal, c'est Georges Pompidou, en disant qu'après De Gaulle, le président de la République ne pourrait être que normal.
Voilà, alors président normal avait une Porsche, mais il aimait bien. Enfin, mais cela dit,
il habitait Quai de Béthune.
Voilà, et il habitait Quai de Béthune sur l'île Saint-Louis, mais néanmoins, je vous remercie vraiment tous les trois chaleureusement de votre participation. Merci à tous pour vos nombreux appels. La question des petits bateaux, c'est celle-ci.
Comment on peut imprimer des pizzas, des jouets, des maisons avec une imprimante 3D? Merci de me répondre. Au revoir.
Allez, la réponse à Léo qui a 9 ans dans 3 minutes.